écoutez CISM 89.3 FM.
Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes à l'antenne de CISM 89,3 La Marge. Nous sommes jeudi le 21. Ouf, j'ai failli pas dire la bonne date. Nous sommes donc le... François, je rigole. Nous sommes le 21 mars. Vous êtes à l'écoute de Jimmy et Neutron en compagnie de Corinne, qui ne sait pas à quelle date on est, et de François, au bout du
fil. Bonjour, Corinne.
Bonjour, bonjour. Comment vas-tu?
Ça va bien. Je suis en Zoom aujourd'hui parce que on a une invitée aujourd'hui et on a rencontré l'invitée en Zoom et les horaires faisaient en sorte que j'avais pas eu le temps de me rendre jusqu'au studio. Donc, je suis resté bien au travail à me connecter pour faire cette émission.
Les joies de la technologie, n'est-ce pas?
Oui, quand même, hein?
Oui, ça nous apporte un certain, une certaine liberté. Cette semaine, on, contrairement à nos habitudes des deux dernières émissions thématiques sur les océans, on va pas entendre Sébastien chanter sous l'océan aujourd'hui. J'ai décidé que aujourd'hui, c'était pas pour aujourd'hui. Mais vous pouvez vous l'imaginer.
Ah, c'est dommage. On aurait pu l'apprendre par cœur quand même, rendu là.
On aurait pu, mais est-ce que les oreilles de nos auditeurs et auditrices auraient apprécié nous entendre chanter? Je ne suis pas certaine. Donc, tu l'as dit, François, nous avons une invitée. Nous allons avoir une invitée un petit peu plus tard dans l'émission, en fait, tout de suite après cette introduction. Il s'agit de Mathilde Jutras, qui est chercheuse postdoctorale à Hawaï en océanographie. Je ne donne pas plus de détails, mais on l'avait rencontrée à l'ACFAS l'année dernière lors de notre émission Les Rencontres au Sommet. Puis, visuellement.
Oui. Et donc, on avait vraiment été impressionnés par sa recherche. Puis, on n'a pas les seuls qui ont été impressionnés par sa recherche. Donc, effectivement, les résultats de son doctorat ont été publiés en janvier 2024 là, comme étant dans les 10 découvertes scientifiques de Québec Science. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on l'a rappelé. Puis, il y a aussi plein de choses d'actualité qui se passent avec le fleuve Saint-Laurent en ce moment. Donc, on n'avait pas besoin de plus de raisons pour lui demander de revenir à l'émission.
Exactement. Donc, on va poursuivre en musique. Je tiens à noter aussi que cette semaine à l'Université de Montréal, c'est la semaine MITIG. Donc, la semaine MITIG qui est née en 2015 d'un souhait de faire une place aux voix, aux perspectives et aux savoirs autochtones à l'UDM dans un esprit de partage. Donc, nous, on n'a pas d'émission thématique par rapport à ça, mais on a quand même choisi de la musique faite par des artistes autochtones cette semaine. Donc, tout au long de l'émission, vous pourrez en entendre. On sait aussi qu'il y a d'autres émissions de la grille horaire de CISM qui ont fait des émissions thématiques. Là. Donc, allez voir tout ça. Probablement que sur le site de CISM, il y a plus d'informations si jamais ça vous intéresse. Donc, on va commencer en musique avec l'artiste Soleil Launière. Ensuite, ça va être suivi donc la première partie de l'entrevue avec Mathilde Jutras, qui va être séparée en donc deux parties. Et entre les deux parties, on va entendre Elie Sapie avec California Mute ou Going to California. Donc, on se laisse là-dessus et on se retrouve un peu plus tard.
Racine, corps, creuse la terre. Je suis unie au territoire. Je déconstruis toutes les frontières. Way-ya, way-ya. Way-ya, way-ya. transforme, nourrit la faune. Mes racines corps creusent la terre. Je me connecte aux lignes nature. Je ne finirai plus jamais d'être. Waya, waya. Waya, 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 waya. Je suis vivante, même sur terre. Je suis criante, même sans. Je suis vivante, même sur terre. Je suis criante, même sans. Je suis criante, même sans air. Je suis criante, même sans air.
Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron. Et comme on vous avait dit dans l'introduction, on a maintenant une invitée qui s'est joint à nous. Donc, on reçoit Mathilde Jutras. Bonjour, Mathilde.
Bonjour.
Donc, tu es chercheuse postdoctorale à l'Université d'Hawaï à Manoa. Ça, je l'ai bien dit correctement.
Oui.
Et on t'avait rencontrée dans le cadre du congrès de l'ACFAS qui a eu lieu en mai dernier. On avait fait une émission avec toi, entre autres, pour les rencontres du sommet, ce qui était le nom de notre émission hebdomadaire pendant le congrès de l'ACFAS. Et là, te revoilà maintenant pour nous parler des océans, ou plus spécifiquement de ton projet de recherche.
Mm-hmm.
Donc, on commence toujours avec une question générale pour nos invités. Donc, on te demanderait de te présenter, s'il te plaît.
Oui, ben c'est ça. Donc, en fait, j'ai terminé mon doctorat à McGill en océanographie l'été dernier, où j'étudiais le Saint-Laurent, plus spécifiquement essayer d'utiliser l'océanographie physique pour essayer de comprendre les changements dans la chimie du Saint-Laurent. Plus spécifiquement encore, j'étudiais les causes de la désoxygénation du Saint-Laurent. Mm-hmm. Et maintenant, je fais un postdoctorat à l'Université d'Hawaï à Manoa, où c'est un peu encore les mêmes thèmes généraux de recherche, où j'étudie les changements dans la biochimie des océans de manière plus globale et en utilisant cette fois-ci des observations. C'est pas mal ça.
C'est cool parce que je me rappelle, ben en fait, je suis allée voir mes notes de qu'on était au congrès, puis ma dernière question, c'était que tu avais commencé ton doctorat à McGill en 2018, puis c'était quoi, en fait, je te demandais c'était quoi la suite, puis tu nous avais dit exactement à ce moment-là que tu prévoyais aller à Hawaï. Puis ça ressemble à quoi la vie d'une chercheuse postdoctorale à Hawaï?
Ça ressemble pas mal à la vie d'une chercheuse postdoctorale partout. Okay. Malheureusement, je dirais. C'est-à-dire, j'ai un bureau dans un beau building cubique avec des corridors un peu tristes. Mais par ma fenêtre, j'ai une belle vue sur les montagnes, montagnes d'Hawaï. C'est sûr que moi, c'est ça, je fais de l'analyse de données. C'est surtout du travail à mon ordinateur. Je vais pas beaucoup sur le terrain.
Mm.
Je dirais que ça change pas grand-chose. Mais c'est sûr que, par contre, quand j'ai fini ma journée de travail, il y a des perspectives intéressantes.
C'est ça. Moi, je me demandais, t'as fait une grosse partie de ta recherche sur le fleuve Saint-Laurent, puis pas les parties chaudes du fleuve, là. Genre, on s'entend, c'était beaucoup dans le golfe du Saint-Laurent. Puis je me demandais, mais là, maintenant, tu nous as dit que tu travaillais beaucoup dans le bureau, mais je me demandais si c'était moins froid de faire des relevés sur le terrain à Hawaï, ou est-ce que je me trompe? Je sais pas.
Ouais, oui, c'est certainement moins froid. Par contre, moi, ce que j'aime bien dans les relevés, dans les hautes latitudes, c'est que quand on y va en hiver, il y a de la glace. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vagues. Donc pas de possibilité d'avoir le mal de mer. On se rapproche de l'équateur, là, c'est un peu plus difficile pour ça.
Oui, j'imagine. J'avais pas pensé à ça. La banquise, facteur facilitant pour le mal de mer.
Oui, absolument.
Vas-y, François.
On va revenir un peu sur ta recherche passée avant de parler de ta recherche future. Une des raisons pour lesquelles on t'a relancé une perche pour l'émission, c'est que la recherche sur laquelle tu as travaillé a été nommée dans les découvertes de l'année par Québec Science.
Mm-hmm.
Et on se demandait est-ce que pour toi c'est important ça d'avoir été nommé dans les 10 découvertes de l'année 2023 par Québec Science? Est-ce que ça fait quelque chose de spécial?
Ouais, ben je trouve que c'est comme tellement une belle et merveilleuse façon de terminer mon doctorat puis d'avoir l'impression que le travail que j'ai fait pendant ce temps-là a été utile puis tu sais a percolé jusqu'au public parce que ça peut être certainement isolant de faire un doctorat puis on se remet souvent en question de savoir si tous les efforts qu'on met en valent la peine. Fait que je trouvais que ça c'était comme vraiment une façon de dire j'ai fait du travail. Tu sais, qui était suffisamment de qualité pour parler aux gens, puis pour peut-être être utile, puis qui a vraiment permis d'avancer les connaissances avec cette reconnaissance-là. Fait que, ouais, non, ça signifie vraiment quelque chose pour moi. Puis aussi que ce soit dans le magazine Québec Science, donc, tu sais, dans la communauté de recherche québécoise, francophone, ça aussi, ça a une importance.
Justement, en plus, pendant le congrès de l'ACFAS, qui est un congrès en français, on t'avait demandé ce que ça représentait, la recherche en français. Maintenant que tu es plus au Québec, est-ce que ça te manque?
Mm-hmm.
Ben, pas que t'as ouais, la McGill aussi. Fait que je sais pas à quel point c'était francophone dans ton équipe à l'époque, là, mais.
Ouais, en fait, ouais, ça l'était quand même pas mal. McGill, comme, les gens à McGill disent que McGill est le pire endroit pour apprendre le français si t'es un anglophone et le pire endroit pour apprendre l'anglais si t'es un francophone parce que tout le monde parle les deux langues. Ça a été vraiment mon cas. Ben oui, c'est sûr que ici je vois encore plus les défis que je ressentais déjà à l'époque parce que la communauté scientifique est très anglophone. Donc quand on va dans les congrès mm-hmm. internationaux, tout ça c'est anglophone. Puis on le perçoit tellement clairement que les gens qui sont anglophones ont comme une longueur d'avance en termes de. Ben ce qu'on voit dans les congrès c'est en termes du partage de leurs recherches, mais c'est qu'ils vont être comme perçus comme s'ils étaient plus compétents juste parce que s'expriment mieux puis ils trouvent les bons mots. Puis souvent avec les gens qui ont de la misère à s'exprimer, ben on va moins les écouter, on va moins porter attention à ce qu'ils racontent alors que c'est peut-être des super bons scientifiques. Fait que c'est sûr que pour moi ici c'est un peu un défi, j'ai pas une facilité comme absolue avec l'anglais, même si ça fait 6 mois que je travaille en anglais tous les jours, tu sais, moi faire des phrases qui ont de l'allure, c'est encore un peu un défi. Mais bon, je suis dans une équipe où la majorité des gens sont très comme ouverts et conscients de ça, mais ça reste un défi. Puis je trouve que c'est d'autant plus un défi aux États-Unis puis au Canada anglais parce que par exemple en Europe, les gens sont très habitués d'avoir des équipes multilingues avec des gens qui viennent de plein de pays puis sont comme habitués de travailler avec des gens qui ont un accent mais qui savent qu'ils sont des très bons scientifiques malgré tout. Mais les Américains, c'est tu sais, sont plus entre eux en général. Là.
Donc, un petit défi là, au niveau de la communication, puis aussi de la perception, de la compétence, c'est ça que je comprends.
Exactement, c'est surtout ça, je trouve, qui est difficile. Là, ouais.
Est-ce qu'on revient un peu sur ta recherche du fleuve Saint-Laurent? Parce qu'il y a quand même eu des bouleversements dans les médias là, dernièrement. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler un peu c'était quoi l'objet de tes recherches?
Mm-hmm,
je sais que tu en as parlé un peu en introduction, mais dans le fond, c'est quoi les qu'est-ce que vous avez trouvé qui a fait en sorte que ça a comme changé notre perception du fleuve?
Mm-hmm. Ben dans le fond, c'est ça. On sait depuis quelques décennies que les concentrations d'oxygène dans les eaux profondes du Saint-Laurent diminuent. Fait que jusqu'à atteindre des niveaux qu'on dit hypoxiques. Donc ça veut dire qu'il reste tellement peu d'oxygène dans l'eau que ça commence à avoir des impacts négatifs sur la vie marine, sur les écosystèmes. Fait que ça, c'était comme en branle depuis, mettons, ben les plus vieilles données qu'on a datent des années 30, puis là, on voit comme une diminution progressive. Puis quelque chose qui est intéressant, c'est que pendant mon doctorat, en 2019, il y a eu une chute comme soudaine et vraiment marquée, alors que c'était relativement stable dans les comme 15-20 dernières années. Puis là, en 2019, boum, ça a descendu jusqu'à des niveaux vraiment, vraiment bas. La moitié de ce qu'on avait là, l'année d'avant. Fait que ça a été intéressant parce que on a pu réagir, déjà le remarquer, réagir, puis se poser la question de qu'est-ce qui avait causé ça. Puis dans nos travaux des années précédentes, on avait justement étudié qu'est-ce qui cause exactement ces changements-là. Parce que jusqu'à maintenant, on savait qu'il y avait deux causes principales. La première, c'est les rejets de nutriments qui viennent soit des fertilisants qu'on utilise dans les champs, mais on en met beaucoup trop. Donc quand il pleut, ça fait juste couler vers le Saint-Laurent. Puis dans le fond, ces fertilisants-là sont aussi un fertilisant dans l'eau, fait que ça fait des blooms d'algues. Quand les algues se décomposent au fond de l'eau, ben elles sont décomposées par des bactéries aérobiques qui consomment de l'oxygène en respirant. Et puis, ça cause la diminution de la concentration d'oxygène au fond. Il y a la même chose qui vient aussi du rejet des eaux usées des villes parce que c'est plein de nutriments, en fait, puis de matières organiques. Donc, ça fait le même effet. Donc, ça, c'est la première grande cause. On savait que ça se passait juste parce qu'on sait qu'on rejette des nutriments dans le Saint-Laurent, mais on n'avait pas étudié de manière directe à quel point ça contribuait. Puis la deuxième grande cause, c'est des changements dans l'Atlantique, parce qu'en fait, les eaux profondes du Saint-Laurent, elles ne coulent pas de Québec vers l'Atlantique, elles coulent de l'Atlantique vers Québec. Fait qu'il y a des eaux qui rentrent, je pense que j'avais expliqué, c'est ça la dernière fois, il y a des eaux qui rentrent de l'Atlantique, puis ça va être un mélange d'eaux qui viennent du courant, le Gulf Stream, et d'eau qui viennent du courant du Labrador. Puis dans les dernières années, on a vu un changement dans quel courant entre dans le Saint-Laurent. Puis ça s'accompagne d'une diminution de la concentration d'oxygène. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est d'aller utiliser les observations, les données, pour dire vraiment qu'est-ce qui avait causé de manière quantitative les changements. Puis ce qu'on a montré, c'est que ça avait changé avec le temps. Donc au début, c'était plutôt la première cause que j'ai nommée qui avait causé la chute d'oxygène. Donc, c'était l'excès de nutriments qui venait comme du fleuve Saint-Laurent et tout ça. Puis, à partir de 2008, là, c'est plutôt des changements de circulation dans l'Atlantique qui causent les changements. Puis, les gros changements qu'on a vus en 2019, c'était ça, c'est qu'il y a eu un shift encore plus marqué du Gulf Stream vers le nord. Et donc, il y a encore plus tôt du Gulf Stream qui rentre dans le Saint-Laurent.
Puis, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut modifier ou sur lequel on peut avoir un impact direct ou indirect?
C'est ça. Moi, c'est pour ça que je trouvais ce projet-là intéressant aussi, parce que tout l'aspect rejet de nutriments dans le fleuve Saint-Laurent, certainement, on pourrait avoir un contrôle là-dessus. Quand il y avait eu toute l'histoire des algues bleues, il y a, je sais pas quand, là, puis là, les gens pouvaient plus se baigner dans leur lac à leur chalet parce que les lacs étaient pleins d'algues bleues, il y a eu une réaction. Ils ont changé la réglementation. Puis toutes les savons, tout ça à base de phosphate ont été interdits. Donc, il y a moyen de changer les choses. Dans le fleuve, c'est pas le phosphate qui est un facteur limitant, c'est le nitrate. Donc, il faudrait réguler autre chose. C'est pas fait en ce moment. Puis dans les rejets aussi d'eau usée, on traite pas pour les nutriments, justement. Donc, tout ça s'en va directement dans l'eau. Mais la technologie existe pour le faire. Puis, comme je disais, c'est aussi une question de nos pratiques agricoles, parce que si on utilisait les fertilisants de manière plus intelligente, ils se retrouveraient pas dans le fleuve. Donc, il y a comme quelque chose qu'on peut faire, là. Par contre, pour ce qui est des changements de circulation dans l'Atlantique, il y a quelques études qui tendent à laisser croire que c'est causé par les changements climatiques. Donc là, c'est beaucoup plus dur à adresser, évidemment.
Cette année, enfin dans les dernières semaines, on apprenait que les quotas de pêche de la crevette nordique sont les plus bas jamais à avoir été accordés par Pêche et Océans Canada. On apprenait aussi que la pêche au sébasse, qui est un poisson de fond, a été réautorisée parce qu'il explose sur la population. Est-ce que ça, c'est des situations qui sont liées à les modifications de la quantité d'oxygène? Est-ce que ça fait partie des conséquences de ça?
Ouais, absolument. C'est complexe. Il y a à la fois les changements dans les propriétés des eaux, et il y a aussi la pêche. C'est tout un cycle. Dans le fond, c'est quand ils permettent une pêche, là, on en pêche trop, fait que les populations diminuent. Puis là, il y en a d'autres espèces qui prennent la place. Donc là, on repermet la pêche de ça. Donc il y a aussi, c'est sûr, la question. C'est pas, je vais pas dire la surpêche, mais de la pêche comme la gestion des ressources. Mais oui, ça a une influence. Comme la crevette nordique, elle est vraiment affectée par les concentrations d'oxygène. En particulier les femelles, quand les concentrations d'oxygène sont vraiment faibles, ils vont moins faire d'œufs puis moins se reproduire. Puis aussi, il y a la concentration d'oxygène, mais il y a aussi la température de l'eau qui change. Puis ça, c'est dû aux mêmes causes. Donc, si on a des changements de circulation dans l'Atlantique Nord, on a plus d'eau du Gulf Stream qui entre, l'eau du Gulf Stream, elle a pas seulement moins d'oxygène, elle est aussi plus chaude. Puis ça a des effets sur les espèces qu'on remarque, comme il y a des espèces qui sont vraiment heureuses dans l'eau chaude, par exemple le homard et tout ça. Dans les dernières années, on a vu une augmentation vraiment grande de la quantité de homards qui étaient pêchés dans le golfe, mais dans le golfe du Maine, où est-ce que c'est une pêcherie super importante pour l'économie locale et tout, là, il y a comme plus de homards, fait que les gens, ils capotent parce qu'il fait comme trop chaud. Donc, c'est comme, ils se sont déplacés vers le nord avec le Gulf Stream. Donc c'est ça, il y a le homard, puis dans le golfe, c'est intéressant aussi, avec l'eau chaude viennent plus de baleines noires. On a entendu parler dans les dernières années des collisions avec les baleines noires, puis c'est parce qu'elles suivent justement ces eaux chaudes-là. Donc oui, ça a toutes sortes d'effets sur les espèces marines qu'on trouve dans le golfe.
On va maintenant poursuivre avec une petite pause musicale avant la suite de cette entrevue. On se retrouve après cette chanson d'Elisapi.
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron. On poursuit maintenant notre entrevue avec Mathilde Dutras qu'on avait commencé en début d'émission par rapport à sa recherche. Dans le topo que le magazine Québec Science a fait par rapport à l'article publié en 2023, on parle de données provenant d'un modèle versus des données de terrain. Puis tu en as parlé aussi un petit peu en introduction. C'est quoi l'importance des modèles dans le type d'études que tu fais? Puis à quel point est-ce qu'ils sont représentatifs de ce qui se passe dans les océans ou dans les cours d'eau de manière plus générale?
Mm-hmm. Ouais, les modèles sont un outil qui est extrêmement utilisé par la communauté. Des fois, selon moi, en oubliant que c'est un modèle. Okay. Parce qu'on sait que les modèles ont plein de biais, puis ils vont être paramétrés pour fonctionner bien pour certaines variables et tout ça. Mais après ça, si on extrapole puis on utilise d'autres résultats qui viennent du modèle, ben il faut faire attention dans la signification réelle que ça a. Fait que moi, j'aime mieux, quand c'est possible, le plus possible d'utiliser des observations. Okay. Puis les modèles en dernier recours, même si les observations, souvent, c'est plus complexe. Parce que pourquoi les modèles, c'est intéressant? C'est parce qu'on a une couverture intégrale de données. Fait que alors que, par exemple, dans l'étude qu'on a publiée, on a utilisé un modèle parce qu'on voulait regarder les courants marins, la circulation, puis des données sur la vitesse des courants et tout ça dans la région du Labrador, sur la côte, mettons, de Terre-Neuve puis du Labrador. On a comme quelques points de données pendant 5 ans. Donc, on est très, très loin de résoudre toute la circulation de la région. Donc, à ce moment-là, on va aller avec un modèle. Par contre, nous, ce qu'on a utilisé, c'est un type de modèle un peu spécial qu'on appelle une réanalyse, où, dans le fond, C'est comme on roule le modèle, mais pas pour prédire le futur, mais on le roule dans le passé. Et à chaque point où on a des observations, on les met dans notre modèle. Fait que notre modèle est comme un peu contraint de fitter avec les observations. Puis comme ça, on peut couvrir une période historique dans le passé qui, avec quelque chose qui va être le plus possible proche de la réalité.
Ça donne des résultats assez satisfaisants. Mais, ouais, j'ai comme plein de questions en même temps. Puis, tu as parlé justement qu'il y a à peu près 5-ish points d'analyse dans le golf puis vers le Labrador. Comment, c'est quoi un point d'analyse? Je veux dire, est-ce que ça se voit? Est-ce que c'est des gens qui vont sur place? Est-ce que c'est comme une station qui est là en tout temps puis qui fait des récoltes de données? À quoi ça ressemble?
Ben, il y a toutes sortes de données qu'on peut, on dit, assimiler dans ces modèles-là. Fait que, ce pourquoi on a peu de données, là, ce que j'ai mentionné, c'est les données de vitesse. Des courants, puis ça, c'est pris par des gens qui vont en bateau puis qui descendent un instrument dans l'eau. Puis dans le fond, le gouvernement du Canada a comme un système de monitorage de certaines régions. Fait qu'ils vont retourner à chaque année sur une certaine ligne, puis là, à toutes les, je sais pas, 100 kilomètres, ils vont descendre leurs instruments. Ce qui arrive, c'est qu'ils vont une fois par année ou peut-être deux fois par année. Donc, on a vraiment un biais au niveau des saisons parce que rarement les gens veulent sortir en bateau en hiver quand les conditions de navigation sont plus difficiles. Donc, ça, c'est un des types de données. Donc, ça va être vraiment de l'échantillonnage à partir d'un bateau. Ensuite, on a aussi les données satellites. Donc là, on va avoir une couverture intégrale, mais seulement de la surface de l'océan. On a aussi ce qu'on appelle des mouillages. Donc ça, ce sont des longues cordes qu'on attache au fond de l'eau, sur lesquels il y a des instruments. Okay. Puis ils vont mesurer en continu à différentes profondeurs pendant une certaine période de temps qui est déterminée par la durée de vie des batteries. Donc ça va être peut-être 2-3 ans, quelque chose comme ça. Puis finalement, on a aussi des senseurs autonomes qu'on appelle. Donc c'est des genres de petits robots qui se déplacent dans l'océan puis qui eux aussi échantillonnent différentes données. On a quand même tout un range d'outils là, pour avoir des données.
Les robots dont tu parles, est-ce que c'est les robots Argo?
Ben, entre autres, les robots Argo, ça, c'est ceux que j'utilise d'ailleurs pour mon post-doctorat. C'est vraiment, ça, c'est un super beau programme international où il y a des, en ce moment, il y a comme, je sais pas, le 3000 robots, là, qui sont dans l'océan en train de tout mesurer, puis ça roule depuis 20 ans. Il y en existe d'autres aussi, il y a d'autres programmes, d'autres types de données. Dans le fond, les bouées Argo, ce qu'elles font, c'est qu'on leur dit va à 2000 mètres. De profondeur, à 1000 mètres de profondeur. Puis, laisse-toi dériver par les courants. Puis après ça, à tous les 10 jours, fais un profil de tout l'océan puis renvoie-nous les données par satellite. Donc, il va se déplacer à 1000 mètres de profondeur. Il y a d'autres bouées qui sont faites pour suivre une certaine ligne de densité dans l'océan ou il y en a d'autres que ça peut être pour aller à certaines profondeurs et tout ça. Fait que c'est assez variable, dépendamment de la question à laquelle on veut répondre.
OK.
Puis, mais maintenant, si on se recentre plus vers ta recherche actuelle, c'est comment tu dis... Là, tu as dit justement que tu utilises les robots Argo. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il y a de différent, à part peut-être l'endroit, entre la différence, dans le fond, entre la recherche que tu faisais au doctorat et celle que tu fais actuellement?
Mm-hmm. Ben déjà, une des premières choses, c'est ça, c'est que j'utilise vraiment exclusivement, ou en tout cas, pas mal juste des données. Puis, je fais partie de ce gros programme-là international qui récolte les données, puis après ça, essaie de les mettre dans un format qui peut être utile pour les scientifiques, puis d'essayer de voir tout ce qu'on peut faire avec ça. Et j'utilise spécifiquement les données de senseurs biogéochimiques. Donc, je sais que le programme roulait depuis une vingtaine d'années, mais il mesurait seulement température, salinité. Et ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres physiques. Avec les paramètres physiques, on peut déduire des choses sur la physique des océans, donc les courants, la ventilation, le mélange et tout ça. Mais dans les dernières années, sur certains senseurs, ils ont aussi installé, sur certaines bouées, ils ont aussi installé des senseurs de paramètres biogéochimiques, donc oxygène, les nutriments, le carbone. Puis avec ça, on peut essayer de plus comprendre justement la biogéochimie. Donc ça, c'est une des grosses différences. Puis ensuite, j'étudie des questions un peu plus générales et théoriques, je dirais, puis plus globales aussi que de me focusser sur un endroit précis comme je faisais dans mon doctorat. Donc ça, c'est une autre grosse différence.
Donc c'est un peu avoir une compréhension générale des océans.
Mm-hmm.
C'est quand même un bon défi.
C'est un assez bon défi, oui.
On n'a plus beaucoup de temps, Donc, moi, j'ai une question qui n'a pas vraiment rapport avec ta recherche en soi, mais j'ai vu que depuis 2020, tu es aussi dans le comité intersectoriel étudiant des fonds de recherche du Québec. Est-ce que tu peux nous parler un peu c'est quoi, puis qu'est-ce que ça t'amène ou qu'est-ce que ça implique en parallèle de ta recherche?
Ouais, ben dans le fond, les fonds de recherche Québec ont un comité étudiant qui est un comité comme statutaire officiel des fonds de recherche du Québec. Avec, dans notre comité, on va avoir des membres qui siègent sur les conseils d'administration des fonds de recherche Québec. Moi, depuis 2023, je siège sur le conseil d'administration du fonds de recherche nature et technologie. Fait que l'idée, c'est vraiment que ce comité-là peut amener le point de vue relève, la relève en recherche. Donc, c'est les étudiants, maîtrise, doctorat. Bon, on commence même, en fait, cégep, bac, maîtrise, doctorat, post-doctorat. Au FRQ, parce que eux, des fois, ben, ils sont peut-être rendus un peu éloignés de la relève. Donc, ils viennent nous consulter sur des questions qu'eux ont en lien avec la relève, ou sinon, des fois, ça va être nous aussi qui allons amener certains dossiers qu'on pense qu'ils devraient être comme discutés. Puis, mettons, récemment, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était la question de l'éco-responsabilité en recherche, donc dans les pratiques de recherche. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on encourage? À quel point. C'est ça, on met en place les principes qu'on prône un peu.
Mais oui, parce que les congrès, c'est pas juste à l'université où on travaille généralement, donc il y a beaucoup de déplacements et tout ça.
Ben, ouais, c'est ça. La question des déplacements, c'est la plus grosse question. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on a fait une grosse recherche, puis oui, c'est le plus gros impact de la recherche vient des déplacements, entre autres pour les congrès et tout ça. Puis là, on peut se poser la question... Est-ce que les gens le font parce que c'est réellement utile pour leur carrière ou parce que ça paraît bien dans leur CV puis qu'après ça, ils se font évaluer selon ces principes-là? Ah. Donc, c'est intéressant pour les FRQ parce que si on peut leur dire, écoutez, quand vous évaluez les demandes de subvention des chercheurs ou les demandes de bourse des étudiants, bien, peut-être qu'il faudrait regarder la pertinence des participations à des congrès plutôt que la quantité puis à quel point ça a l'air fancy parce que c'était loin. Mmh.
Excellent point, excellent point.
Donc, Mathilde, c'est quoi les prochaines étapes dans ta recherche ou dans ta vie de chercheuse?
Décider si je veux faire une carrière académique ou pas.
Ah, ouais, ça te travaille?
Ouais, on s'entend que l'équilibre vie-travail de nos modèles qu'on a dans le monde académique, c'est un peu rebutant.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais. Mais en même temps, très intéressant.
Puis là, ton postdoctorat, t'en as pour combien de temps à peu près?
C'est 2 ans.
OK.
2 ans. Donc, 2 ans à Hawaï. Excellent.
Oui, c'est ça. Ça se prend bien.
Bien, merci d'avoir été avec nous. On te souhaite le meilleur dans la suite de tes recherches et au sein de ton choix de carrière aussi.
Merci.
On va maintenant poursuivre en musique. On va aller écouter l'artiste Catholine et on va avec la pièce L'effroi. Et on va se retrouver après pour la suite de cette émission Les Océans, partie 3. À tout de suite. Blanche.
se fiche. Comme les larmes sont les falaises de mes joues. Je suis encore là à construire des châteaux forts qui brillent au soleil, qui protègent du vent du nord. J'ai l'hiver gravé dans mon dos, sans l'eau, les pas qui marchent, les pains qui craquent comme les os. Je croise les doigts tellement fort pour que tout défile, tout s'enfile dans le tricot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron dans cette émission Océan, partie 3. On a fini notre entrevue avec Mathilde. J'aimerais ça prendre encore un petit 5 secondes pour la remercier, même si elle n'est plus avec nous en entrevue. C'était vraiment agréable de lui parler et elle a soulevé tout plein de points super intéressants. Pas que je m'y connaisse en océanographie, mais plus dans ce qui entoure le monde de la recherche. Donc, je trouve ça agréable de parler à des gens qui vivent les mêmes choses. Mais là, François, toi, t'avais d'autres choses à nous raconter par rapport aux océans.
Ah ben oui, parce que il y a deux semaines, on s'est parlé du film Le jour d'après, là, connu aussi sous son titre original de Day After Tomorrow.
Ouais.
Et ben, ça m'a quand même inspiré, fait que je me suis dit que j'allais faire une récidive de cette chronique pop science cinéma.
Ah oui, tu sais que je fais juste un petit moment, une petite interruption d'un moment. Quand on a commencé l'émission en 2019 avec Marie-Françoise, c'était un concept qu'elle voulait qu'on fasse, soit l'intégrer dans nos émissions. À l'époque, c'était une heure et demie, ou faire des émissions complètes là-dessus sur une espèce de Mythbusters de films scientifiques.
Ah.
Mais là, t'es en train de faire ça.
Je suis en train de faire ça. Hein?
Ouais.
Bon, on va y aller petit peu par petit peu. C'est juste que c'est sûr qu'il y en a pas mal des films. Mais là, cette fois, je vais vous parler d'un film plus ancien encore que The Day After Tomorrow. Et je vais vous parler du film Un monde sans terre. Ça, c'est sa version en français, connue aussi comme le film Waterworld.
Okay.
Donc, c'est un film qui est sorti en 1995.
Okay.
Ça commence à dater, ça va bientôt faire 20 ans, le film Waterworld. Et au moment de sa sortie, c'était le film le plus cher jamais produit.
Ah oui! C'est avant Titanic. Mais je sais pas si c'est le film le plus cher jamais produit. En tout cas, peu importe.
Mais en tout cas, là j'ai vérifié là si c'était encore le film le plus cher jamais produit. Et je peux t'assurer que tous les films de super-héros, tous les nouveaux Star Wars, c'est tout plus cher.
Okay.
Même quand on prend les dollars constants. Donc, là, j'ai vu un palmarès là, des 30 films les plus chers jamais produits qui utilisaient quand même les dollars actualisés.
Ouais.
Et donc, ils seraient quand même encore dans le top 20, mais tu sais, mettons genre 17-18e place,
okay,
là, si on actualise les dollars là,
puis,
par rapport à l'inflation.
Du côté People, c'est quoi le numéro 1? Juste par curiosité, est-ce que tu te
rappelles? J'ai vu plusieurs numéros 1, mais c'est toujours, parce que ça dépend de, j'imagine, des chiffres qui sont rendus disponibles, là, mais c'était comme Dans le palmarès que j'ai regardé, dans plusieurs palmarès que j'ai regardé, c'était Star Wars The Force Awakens qui était okay. le plus cher jamais produit. Là. Donc là, dans la nouvelle trilogie là, mm-hmm. de la Guerre des Étoiles.
Eh bien, intéressant.
Et donc, oui, alors apparemment que Disney n'est pas allé avec le dos de la cuillère oui. pour le budget. Donc, si on revient à notre film de 1995, donc dans ce film-là, la Terre a connu un réchauffement climatique catastrophique et tous les glaciers ont fondu. Conséquence, la Terre est devenue une planète complètement d'eau, sauf, et attention ici aux divulgateurs, je ne sais pas si vous allez vous taper le film de 1995, mais... Il y a une petite partie là du sommet du mont Everest là, qui reste immergée. Okay. Et c'est ça que, dans le fond, l'objectif tout le film, c'est de trouver la seule Terre qui existe encore sur la planète.
OK. Aller sur le mont Everest. Donc,
oui, c'est ça. Donc, on soupçonne que c'est le sommet de la plus haute montagne sur Terre là, qui reste, là, genre, le mont Everest, le bout est comme devenu une île, si on veut. Bon, c'était pas un super bon film, là, c'est que je me sens pas trop mal de vous avoir dit ça, là, donc allez pas. Ben peut-être si vous aimez ça, les films classiques, peut-être allez le voir. En tout cas, toujours est-il que la question c'est est-ce que c'est un scénario envisageable que la Terre devienne un océan complet? Et la réponse c'est non. C'est quand même assez direct et c'est assez facile de vérifier ces informations-là. Il y a juste pas assez de glace sur la Terre pour déverser une quantité d'eau suffisante pour recouvrir tout l'ensemble du globe jusqu'à une altitude de plus de 8000 mètres
oui,
pour
ça.
Qu'elle ne dépasse que le sommet de l'Everest.
C'est gigantesque, 8000 mètres.
Ça serait une quantité d'eau phénoménale. Donc là, ça peut pas arriver, ce scénario-là. Donc, même si le scénario à la Waterworld n'est pas possible, ça veut pas dire que le niveau des océans n'augmente pas en fonction de la fonte des glaces. Donc, selon la NASA, la fonte des glaces, c'est le principal contributeur à l'augmentation des niveaux des mers. Et aussi, c'est pas n'importe quelle glace. Donc, la glace qui contribue le plus, ou du moins qui contribue presque même à 100% par rapport au niveau de la mer, c'est la glace qui se trouve sur la Terre. Donc, on parle ici du Groenland et de l'Antarctique, parce que sinon, les glaces qui sont des banquises, elles flottent déjà sur l'eau.
Ouais.
Et donc, elles créent déjà un déplacement d'eau, elles occupent déjà un volume. Donc, elles contribuent... pas de la même manière là, à l'augmentation du niveau du volume d'eau là, dans les océans. D'ailleurs, élément intéressant, sur le site qui s'appelle Sea Level de la NASA, donc c'est genre sealevel.nasa.gov, okay. Il est possible de consulter les données en satellite pratiquement en temps réel. Donc la NASA, avec les satellites, observe le niveau moyen de la mer partout sur la planète et est capable de faire une moyenne. Et on a accès à ces données-là depuis 1993. Et là, j'ai regardé aujourd'hui.
Ouais.
Et l'augmentation mesurée qui est publiée là-dessus est de l'ordre d'environ de 100 mm. Et ça, c'est une augmentation de 100 mm depuis 1993.
Ouais. Je regarde, à l'instant, on est à 103,8 mm.
Ah, voilà. Donc... c'est ça, autour de 100 mm. Donc, c'est sûr qu'avec 100 mm, on est loin de recouvrir le sommet de l'Everest.
Mm-hmm.
Donc, malgré tout, qu'arriverait-il si toutes les glaces fondaient? Parce que on s'entend, il reste encore pas mal il reste encore pas mal de glace au Groenland, il reste encore pas mal de glace en Antarctique aujourd'hui, malgré le fait qu'il y en a une partie qui a fondu. Et l'estimé, c'est que si toutes les glaces fondaient, on aurait un niveau des mers qui serait augmenté de 60 à 61 mètres. On est loin du 8000 mètres, mais
c'est
ça serait quand même une catastrophe.
Quand même gros,
en oui. sachant que, mettons, à notre échelle ici, le port de Montréal se trouve à une altitude de 6 mètres. Et donc, s'il y avait 60 mètres de plus d'eau dans la mer, faut s'imaginer que Montréal serait sous à peu près 50 mètres d'eau.
Ah oui.
Donc, c'est quand même pas négligeable. Et là, dans le fond, on aurait comme, je sais pas moi, la mer de Champlain prise 2. Donc, pour ceux qui savent pas, la mer de Champlain, c'est, il y a 12 000 ans, c'était une mer qui recouvrait les basses terres du Saint-Laurent et, dans le fond, et ça recouvrait les basses terres du Saint-Laurent d'à peu près 200 mètres. Bon, c'est sûr que là, la géographie a changé depuis 12 000 ans, mais comme les basses terres du Saint-Laurent sont à une altitude moyenne de 100 mètres, à peu près, donc, de moins de 100 mètres, en fait. Donc, c'est sûr que si on ajoute 60 mètres d'eau, on aurait potentiellement à peu près toutes les basses terres de Saint-Laurent qui seraient recouvertes d'eau. Donc, retour de la mer de Champlain. Donc, malgré l'intensité, est-ce que c'est possible ça? Pas à court terme. Donc, malgré l'intensité du réchauffement climatique actuel, la fonte de toutes les glaces reste peu probable. La projection actuelle de la montée des eaux des océans pour 2100, donc c'est ça les projections les plus loin dans le temps qu'on fait en ce moment, c'est en 2100. Et donc, la projection, c'est que par rapport à la moyenne du niveau des eaux calculée entre 86 et 2005, on va avoir une augmentation supplémentaire de 140 mm. Donc, là, nous, on vit une augmentation déjà de 100 mm. Et là, on peut estimer qu'on va avoir, mettons qu'il y en a un petit peu qui s'est fait depuis 2005. Donc, on va avoir un autre, mettons, 120 ou 100 mm de plus d'eau qu'on va retrouver dans le niveau des mers. C'est sûr que ça, c'est important parce que on parle quand même d'une grande quantité d'eau et ça fait en sorte que il y a plusieurs régions du monde qui vont soit avoir vécu une érosion accélérée ou qui vont se retrouver en risque d'inondation dès qu'on va avoir des fortes marées ou des phénomènes climatiques météorologiques importants, comme des tempêtes qui viennent avec avec des vagues, avec des ondes de tempête. Donc ça, c'est sûr que ça met plusieurs personnes à risque. Pour le Canada, parce qu'on s'entend là, le 140 mm, ça reste une moyenne. Pour le Canada, il va y avoir des variations selon l'endroit où on se trouve. Et il y a certaines régions, particulièrement dans l'Atlantique Nord, qui vont avoir des augmentations jusqu'à 180 mm par rapport à la moyenne 86-2005. Donc c'est sûr qu'on n'est pas dans un scénario à la Waterworld à court terme, mais, car il faut toujours ajouter un mais,
ouais.
Il est estimé que la planète Terre ait déjà été complètement recouverte d'eau, mais dans le passé.
OK.
Et donc, il y a 3 à 4 milliards d'années, on pense que la Terre était recouverte pratiquement à 100% d'un océan. Et ça, on le sait parce qu'on trouve des indices d'une Terre complètement recouverte d'eau dans des relevés géologiques de certains endroits sur la croûte terrestre. Et donc, aujourd'hui, la majorité de l'eau sur la surface de la Terre se trouve dans les océans, qui couvrent quand même plus de 70% de la surface de la Terre. Et quand on a déjà établi qu'il n'y a pas assez de glace sur la Terre pour couvrir toute la surface, ben ça devient un peu difficile de penser qu'on va trouver beaucoup plus d'eau pour recouvrir, mettons, 90% de la surface de la Terre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre qui est contenue dans les roches.
OK.
Et pas n'importe quelle roche, particulièrement dans le manteau de la Terre. Donc, le manteau, c'est la zone de roche en fusion qui se cache sous la croûte terrestre. Et c'est de là, d'ailleurs, que provient la lave en fusion des éruptions volcaniques. Et la présence d'eau dans la roche en fusion, ça participe aussi à la virulence de certaines éruptions volcaniques. Parce que là, on a, en plus de la roche en fusion, on a toute cette vapeur d'eau-là qui, dans le fond, ça fait décompresser. Là, et là, ça fait une espèce d'explosion de roche en fusion. Donc, dans l'hypothèse où le manteau de la Terre était plus chaud, il y a 3 à 4 milliards d'années qu'aujourd'hui, eh bien, un manteau plus chaud, ça a une moins grande capacité à emmagasiner de l'eau. Donc, il faut que cette eau-là, elle se retrouve quelque part.
Okay.
Donc, l'hypothèse qui est faite, c'est que cette eau, si elle n'est pas dans le manteau, elle se serait retrouvée à la surface de la Terre. Et là, ça aurait donné lieu à une Terre recouverte jusqu'à 90% d'eau.
Wow.
Donc, quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, oui, à un Waterworld, mais pas avec Kevin Costner qui tenait le rôle principal dans le rôle d'un aventurier des mers, mais plus dans le rôle de Kevin Costner qui joue un organisme unicellulaire, peut-être.
Mais je tiens aussi à dire que c'est bien beau, l'Everest est comme la petite île qui sort, mais tu sais que l'Everest est seulement plus haut de 238 mètres du K2. Donc, s'il y a juste l'Everest qui sort, c'est que c'est comme une vraiment microscopique pointe. En tout cas, c'était mon...
Je pense pas que le film Waterworld
a pris le K2 en considération.
À ce détail-là.
Ouais, je pense pas non plus. Mais écoute, merci pour cette chronique. Nous, on va terminer l'émission en musique. Donc, tout d'abord avec nos belles chansons de Matthew et ça va être terminé. Ben, ça va être suivi, en fait, de Omari par Willows. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, tout le monde.
Bye!
Quand on part de loin, j'ai pas de gazon, j'emmerde le voisin. hors de l'eau. Si j'ai de la misère à rester à flot, j'ai beau gueuler pour me faire entendre en haut, m'aideront jamais, ça je sais ben trop. Mais je peux pas faire comme j'ai toujours fait, vendre mon cul pour payer mes dettes, bosser pour quelqu'un qui en a rien à foutre. Je démissionne, point c'est tout. Sont à 10 000 et demi. La lampe à l'huile dessine des ombres dans le noir et j'ai encore peur ce soir. Oh Marie, demain arrive trop tôt, à peine le temps de prendre un peu de repos. Tant d'efforts pour si peu de sous, petite récolte et la poussière partout. Oh Marie, à Sandy Lands, mon amour est parti. Mais je tiendrai bon, tiendrai le fort de la lune aux aurores. Je te salue là-haut, un autre enfant arrivera bientôt. Et dans la chaleur de l'été, le linge à laver, les cœurs à consoler. Et pour aller jusqu'au bout de mes journées, et pour garder espoir de le retrouver, je repense à ses mains, à son corps contre le mien, et l'amour qui vaut plus que toutes les richesses du monde. Oh Marie, à Sandy Lands, mon amour est parti. Mais je tiendrai, m'en tiendrai le fort
de la lune aux aurores. Ô Marie, à Saint-Hélène, mon amour est parti. Mais je tiendrai bon, tiendrai le fort de la lune aux aurores.
Ici Canon, vous écoutez CISM.
All of Us Strangers d'Andrew Haig, Monstre d'Hirokazu Kore-eda et La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Quand ces trois films en commun, ils sont à l'affiche au Ciné-Campus de l'UDM ce printemps. On termine la saison cinématographique en grand avec des projections à seulement 5 $ pour la communauté étudiante et à 7 $ pour le grand public. Programmation complète sur culture-umontréal.tuxedobillets.com.
Situé au cœur du centre-ville de Saint-Hyacinthe, le Zarico est la salle de spectacle incontournable dans le paysage québécois. Ce printemps, le Zarico vous promet votre dose d'artistes émergents et reconnus sur les scènes alternatives du Québec. Étienne Dufresne, Violette B, Les Deluxe, Rosalie Ayotte, Libelle, Marco Emma, Philippe B, Charlotte Brousseau et Anaknib. Rendez-vous sur lezarico.com pour tous les détails et la programmation complète. Venez vivre l'expérience Le Zarico. Parce que Le Zarico, c'est tout. Accessible avec l'autobus 200 à partir du métro Longueuil.
Vous écoutez CISM 89.3 FM.
J'ai rien mangé la journée, pas même bu un café. Le temps me manque et tout mon corps tremble. Quel réveil est pris.
Je vais aller chez nous, j'en venais, parce que j'ai oublié le synopsis de la pub. Faites ce que vous voulez en attendant.
Yeah! Oui, salut, le Sphinx en direct de Où est-ce que tu sors de Montréal?
Je vais essayer de pas être trop émotif.
Bonjour, bienvenue à On prend toujours un micro.
Tu aimais ça, la tempête de neige, puis l'énergie rock, là. À matin,
il
me semble que ça
plaît. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous les mercredis.
On l'a-tu, la pub? C'est correct, que, gars?
Yo, 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 Montréal.
La vie, c'est pas.
On prend toujours un micro pour la vie. 2 heures de marde.
Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
Le char de marge, les dimanches entre 18 et 20 heures, c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à ta tête ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge, les dimanches, dès 18 heures.
Être dans la marge à CISM, ça date pas d'hier.
10 000 watts de puissance. CISM 89.3 FM, Montréal.
Vous écoutez CISM 89.3 FM, la marge.
Vous écoutez La Collation, 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM, votre dose d'énergie pour continuer la journée.